Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Ise Tsikar et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jacques Hubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'est une série consacrée à l'économie du temps libre que nous vous proposons cette semaine. Depuis les premières villégiatures du bord de mer jusqu'aux grandes cités balnéaires, les représentations de la plage et les pratiques qui les accompagnent se transforment au XIXe siècle et plus encore au XXe siècle avec l'essor du tourisme de masse. La notion même de temps libre, inséparable des bouleversements de l'âge industriel, continue de nous interroger plus de 80 ans après la révolution des congés payés qui a précipité sur la route des vacances des centaines de milliers de Français. Alors qu'est-ce que nos divertissements et l'économie qui les régit révèlent de notre société ? Le loisir, héritier moderne peut-être de l'oisiveté, est-il toujours cet impérieux marqueur social ? Allons-nous voir advenir cette civilisation du temps libéré que le philosophe André Gorz appelait de ses voeux ? Voilà les questions qui vont nous occuper toute cette semaine. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer l'histoire des cités balnéaires en France en compagnie de Claude Prelorenzo, maître de conférence à l'école des Ponts, chercheur au laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, en compagnie également de Nicolas Stoskov, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Haute-Alsace. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Le paradis de l'estivant, ce peut être en ce moment une plage à la mode. Une plage à la mode, ce peut être une trinité en quatre personnes, on l'a dit. La peinture, la littérature, le journalisme, la mode. Ce n'est qu'une boutade et c'est une exactitude pourtant. Chaque station balnéaire a été lancée par un homme de lettres, un artiste célèbre ou un journaliste. Ce fut ainsi Alexandre Dumas pour Trouville, Alphonse Karr pour Étretat, Villemessant pour Paris-Plage, Dennery pour Cabourg, Ossard pour Houlgate, Pitre Chevalier pour Villers, Lorbrugheim pour Nice, Cannes et ce qu'on appela la promenade des Anglais, et Morny pour Deauville. À propos, je tiens depuis peu un trait qui me paraît assez méconnu pour être rapporté. Une anecdote, naturellement. Ça aurait été pour gagner le cœur d'une dame d'honneur de l'impératrice Eugénie qu'à la vérité, Morny aurait créé Deauville. La belle résistait à tous ses assauts. « Que faut-il donc ?» lui demanda Morny pour que vous couronniez enfin ma flamme. « Mon cher duc, à voix la dame, intelligemment, je ne demande qu'à vous aimer, mais à Paris l'hiver, je n'en ai pas le temps, et en province l'été, je n'en ai pas le goût. Soit, fit Morny, laissez-moi 3 mois, et j'aurais parti gagner. 6 mois après, Morny avait découvert Deauville.
Bonjour Claude Prelorenzo et Nicolas Stoskov.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre une archive d'une émission de la RTF, la radiodiffusion télévision française, datant de 1953. Nicolas Stoskov, l'invention des premières cités balnéaires au XIXe siècle est intrinsèquement liée à des figures particulières, des personnages à la mode de l'époque, comme le comte de Morny.
Absolument. Morny a joué un rôle essentiel à Deauville, dans la fondation de Deauville. Je ne pense pas que ça soit vraiment la raison, d'autant plus qu'en 1859, au moment de la fondation, il n'était pas encore duc. Donc il y a une petite erreur historique dans l'extrait.
Ce ne serait pas pour ses conquêtes féminines, dont on sait qu'il en a eu beaucoup.
Je ne pense pas, parce que c'est plus complexe que ça. Hein. Il en a eu beaucoup, absolument. Et le docteur Olive, qui était son médecin et qui lui distribuait des pilules arsenicales pour lui éviter des défaillances sexuelles lors de ses conquêtes féminines, est de la partie. Mais pas lui seulement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de banquiers, d'architectes, d'entrepreneurs des travaux publics qui sont aussi de la partie dans cette fondation de Deauville.
Alors le comte de Morny et un certain nombre de personnages à l'époque à la mode sont déterminants. En revanche, et on y reviendra dans une seconde partie, Claude Prelorenzo, c'est une toute autre logique qui va présider à l'invention des cités balnéaires comme la Grande Motte dans les années 60.
Oui, tout à fait, absolument. Absolument, on passe effectivement des élites simili-aristocratiques à la technocratie. Hein, donc c'est vraiment très différent du point de vue des acteurs.
Il va y avoir une véritable démocratisation du tourisme et de l'accès à la plage dans les années 60.
Si par démocratisation, on pense à l'élargissement de la clientèle, hein, bien entendu. Il ne s'agit pas du tout des mêmes personnes.
Alors le 19e siècle, pour commencer, voit émerger de multiples villégiatures hivernales et aristocratiques sur les côtes anglaises d'abord et normandes ensuite. On cherche alors à guérir des miasmes de la ville, notamment Nicolas Stoskoff.
Absolument, on va vers les plages de Normandie, d'abord Trouville, dès la monarchie de Juillet, dès les années 1830. Il y a un engouement pour la baignade, à des fins plus ou moins thérapeutiques, hein, effectivement, et puis la volonté, effectivement, d'échapper à la ville. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'on va reconstituer une ville, parce que Deauville est pensée comme une véritable ville au bord de la mer.
Alors Deauville va faire partie peut-être de cette deuxième génération de stations balnéaires qui émergent ex nihilo sous le Second Empire. Et en effet, il y a déjà une douzaine de plages normandes qui sont déjà fréquentées vers 1850.
Dieppe aussi. Dieppe a été la première en réalité. Hein. Dieppe a été la première.
En quelle année?
Ah là, c'est une bonne question. Je pensais sous la Restauration, Dieppe. C'est la duchesse de Berry qui a lancé Dieppe déjà sous la Restauration. Et puis ensuite, les plages normandes se développent, Trouville, et puis Houlgate, Cabourg, Villers-sur-Mer. Et Deauville vient ensuite en 1859. Et la particularité de Deauville, c'est qu'il y avait vraiment un terrain totalement vierge. C'est-à-dire que il y avait là un espace qui jusque-là était indivis, qui appartenait à la commune de Deauville, et qui n'avait pas été loti parce que il y avait un différend judiciaire. Un différend judiciaire qui est justement tranché en 1859 au profit de la commune. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lancer quelque chose. Mais c'est un terrain vague, c'est un marais, ce sont les marais de Deauville donc, qui s'offrent donc à la construction.
Et Deauville est un tout petit village de 120 habitants.
C'est ça, c'est un petit village sur les pentes du Mont Canisy et au pied duquel il y a ces marais. Et Trouville qui guette naturellement ces marais en espérant pouvoir s'agrandir de l'autre côté de la Touque. Mais il y a un arrêt du Conseil d'État en 1855 qui refuse la fusion des deux communes et qui va rendre possible donc un aménagement concerté, planifié de Deauville.
Alors le choix de Deauville par le comte de Morny et ses associés, on va y revenir, mais il est lié à la décision qui est prise en 1859 de prolonger la ligne de chemin de fer jusqu'à Trouville, qui est donc située juste
Absolument.
À côté.
Absolument. Il y a une autre décision, effectivement, qui est tout à fait importante et qui se passe au même moment, en 1859. C'est la décision de prolonger le chemin de fer de Pont-l'Évêque à Trouville. 11 kilomètres. Et qui permettra, naturellement, de relier, Trouville et Deauville à la population parisienne. En 5 heures, à l'époque. Mais bon, c'était pas grand chose, quand même, par rapport à, naturellement, au temps qu'il fallait mettre par d'autres moyens.
Deauville qui doit donc sa création à un homme visionnaire, le comte de Morny.
Morny, avec ce sens des affaires qu'il a toujours, et ce sens de ses intérêts qu'il a toujours, il se dit, bien, ici on pourrait faire une station extraordinaire. Et effectivement, il va racheter pour 800 000 francs l'ensemble de Deauville, tout l'ensemble de Deauville. Naturellement, il va fonder une société dont il ne sera pas, d'ailleurs en nom du moins, c'est le docteur Olive qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était son homme de paille, qui lui prêtera le sien. Et cette société, dans laquelle il y a son agent de change, Donon, va commencer l'exploitation de Deauville. Et au départ, évidemment, les autres associés de Morny ont peur. Et je me souviens d'une lettre de Morny que j'ai vue, que j'ai eue sous les yeux et que j'ai reproduite d'ailleurs dans mon livre. Il leur dit, mais si, il faut aller de l'avant, il faut avoir confiance. Il faut construire non seulement un hôtel, mais un deuxième hôtel. Il faudra construire un casino et peu à peu, vous verrez, l'argent viendra et les gens viendront. Et effectivement, les gens commencent à venir parce qu'on sait que Morny est dans l'affaire, comme on disait alors à l'époque. Et quand on savait que Morny était dans l'affaire, eh bien, ça donnait confiance.
Voilà le journaliste Claude Dufresne. Alors avant d'en arriver au succès de Deauville, revenons aux origines du projet. Il y a donc Armand Donon, un banquier parisien, et Del Français Brenet, un architecte formé à Paris. Ils vont jouer tous les deux un rôle essentiel, sans oublier évidemment Joseph Olive, le médecin particulier du comte de Morny.
Parfaitement, c'est le trio essentiel. Hein, parce que le docteur Olive et Brenet, donc l'architecte, sont déjà installés à Trouville. Ils ont déjà des villas à Trouville et donc ils peuvent informer Armand Donon, qui est le banquier de Morny, de ce qui est en train de se passer.
Ils connaissent le terrain
et Donon, lui, c'est un expert dans le domaine bancaire, dans le domaine des chemins de fer, dans le domaine financier, minier, etc. C'est le banquier de Morny. Quand on dit que Morny est dans l'affaire, c'est Donon qui tire les ficelles et qui réalise ses affaires. C'est lui le technicien, si vous voulez. Et c'est lui qui achète les terrains avec le docteur Olive. C'est pas Morny qui achète les terrains, hein, comme le dit Claude Dufresne. C'est Armand Denon et le docteur Olive qui achètent ces terrains pour 800 000 francs, alors qu'ils avaient été estimés à 400 000 francs. Donc ils proposent le double. Et ils évitent immédiatement toute surenchère, si vous voulez. La commune accepte tout de suite, naturellement, de leur vendre ces 200 hectares environ, hein, pour 800 000 francs.
Ils proposent le double parce qu'ils se disent d'ores et déjà que l'affaire va être extrêmement fructueuse.
Absolument. C'est, au départ, si vous voulez, c'est une opération de spéculation immobilière. Mais très curieusement, ce qui est une banale opération de spéculation immobilière et une géniale opération de spéculation immobilière va se révéler un projet à long terme, si vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en partant de cet appétit finalement du profit, hein, on va aboutir à quelque chose de tout à fait durable et qui va marquer effectivement la vie locale.
Et alors à quoi ressemblent, Nicolas Stoskov, les premières villas qui sont construites à Deauville au début des années 1860?
Voilà, alors pendant quelques années, il ne se passe pas grand-chose à Deauville et on ne vend pas encore la station. Simplement, les acheteurs, Denon, Olive et Morny, construisent les premières villas face à la mer. Hein, et des villas en style Tudor, en style Morny construit une sorte de petit château face à la mer. Et ils sont entourés de part et d'autre par leurs amis qu'on retrouve dans les conseils d'administration ou par quelques grands personnages qui vont donner cette image prestigieuse à la station. Il y a là, par exemple, le marquis de Salamanca, il y a Grande Espagne, il y a un prince russe, Paul Demidov, que Morny a peut-être rencontré lors de son ambassade en Russie, et des préfets, préfets de police, des financiers, etc. Et c'est cette digue qui se bâtit de villas, donc, et qu'on va appeler la terrasse, hein, c'est la terrasse de Deauville, donne, si vous voulez, cette image de prestige. On donne d'abord une image de marque. Hein. Alors, pendant ce temps-là, néanmoins, il y a déjà un plan qui a été réalisé par Brenet, hein, un plan d'une ville qui associe deux éléments. D'abord, la ville proprement dite, le long de la mer, avec un plan orthogonal en damier, hein, exactement, si vous voulez, comme une ville planifiée. Il ne s'agit pas du tout de faire quelque chose qui, dans le plan d'urbanisme, serait pittoresque, comme on pourrait aujourd'hui le faire dans des marinas ou autres villes balnéaires très modernes. Hein. C'est vraiment tiré au cordeau. Et à l'arrière de cette ville, il y a le projet qui est là tout à fait l'apport de Morny, qui est la construction d'un hippodrome. Et cet hippodrome prend énormément de place. Au début, il n'y en a pas beaucoup et puis il s'étend.
Alors, on va y revenir, mais c'est d'abord, peut-être qu'il faut dire d'abord que c'est surtout à partir de 1863 que Deauville va s'ouvrir à un plus grand public. Et la première saison officielle est celle de l'été 1864.
C'est ça.
Alors, comment se passe cette première saison officielle?
Ah, bah, il y a un train spécial qui vient de Paris, qui part le dimanche à 5h du matin, qui amène, paraît-il, 6000 personnes qui viennent pour l'inauguration de l'hippodrome notamment. Il y a l'inauguration de l'hippodrome, il y a l'inauguration du casino. C'est là évidemment un événement mondain, si vous voulez, ou qui attire la haute société parisienne, les curieux, les badauds, etc.
Et alors Nestor Roqueplan, qui est journaliste et directeur de l'Opéra Comique, s'enthousiasme pour ce bad marin, ce Brighton français. Voilà. La presse couvre énormément cet événement.
La presse s'enthousiasme et parle effectivement de Bad Marin, donc Baden-Baden, hein, qui était la grande station thermale à la mode de l'autre côté du Rhin. Et puis Brighton, qui est incontestablement le modèle, parce que Morny, le docteur Olive qui est Denon, pardon, et le docteur Olive qui est anglais, sont cherchent à imiter, si vous voulez, ces modèles anglais. Hein. Ils introduisent ce modèle anglais en France.
Puisque l'Angleterre constitue vraiment un pionnier de ces villes balnéaires dès le XVIIIe siècle.
Absolument, Brighton, effectivement, remonte au XVIIIe siècle. Donc c'est un modèle. Hein.
Et alors, Deauville est véritablement pensée pour être une destination de luxe, vous l'avez dit, Nicolas Stoskov. Elle est auréolée de prestige dès sa conception. Et il s'agit notamment de chasser l'image plutôt répulsive des marais côtiers. Alors, comment ces représentations de la mer, des bains de mer, de la plage, vont-elles évoluer? C'est une évolution qui, en réalité, existe et apparaît tout au long du XIXe siècle.
Oui, alors c'est justement cette digue terrasse qui passe devant les belles villas qui donne, si vous voulez, à cette franche côtière toute son allure et toute son image de luxe, avec le casino, avec au centre le casino qui est planté au milieu d'un grand parc. Et donc tout est fait, si vous voulez, pour être beau, pour être agréable, pour permettre la promenade, pour voir en même temps et pour être vu, pour se balader, se promener, etc. Avec, si vous voulez, les trois éléments qui sont essentiels pour Deauville, c'est le casino. Bon, on trouve ça dans toutes les stations balnéaires. Le centre hydrothérapique, donc les bains, qui préfigure la thalassothérapie, et puis l'hippodrome.
Ce sont les trois pôles économiques, c'est l'idée de structurer une ville, une véritable ville, et pas seulement une station balnéaire autour.
Exactement.
De ces trois pôles.
Alors avec quelque chose de très particulier et qui nous paraît insolite aujourd'hui, c'est que Morny avait aussi le projet de développer un port commercial. Et il n'y avait pas de contradiction pour lui entre la fonction de port commercial et de ville donc portuaire, avec la ville de villégiature, si vous voulez.
Et d'ailleurs, la presse salue cette idée géniale du comte de Morny de créer ce port de commerce. En réalité, ça ne va pas du tout marcher, Nicolas Stoskov.
Non, ça ne marchera pas beaucoup. Mais et c'est là où, si vous voulez, c'est quand même génial, c'est que le port de commerce, finalement, ça va être quelques décennies plus tard le port de plaisance. Et donc, il est là. Hein. C'est un port en eau profonde. Et donc, ça va permettre, sous la Troisième République, de développer le yachting à Deauville. Donc, malgré tout, vous voyez, l'intuition, l'innovation est là. Et finalement, elle se révèle payante.
Alors, la cité de Deauville émerge à travers ses premières villas. Mais l'objectif, vous l'avez dit, c'est de créer une véritable ville. Alors, à quoi ressemble ce plan d'urbanisme élaboré par Brenet, qui en devient le maire en 1861 ? Vous avez parlé de ce plan en damier. Et à l'arrière, la ville est structurée autour de deux axes, l'avenue impériale Est-Ouest et c'est l'avenue ça. De l'Hippodrome.
Voilà, l'avenue impériale Est-Ouest et puis l'avenue de l'Hippodrome, qui est perpendiculaire à la côte et qui relie donc le casino à l'hippodrome, et qui est bordé de magasins déjà, je pense, luxueux, bien qu'on ait très peu d'informations là-dedans, mais on peut supposer naturellement qu'on avait une clientèle qui était capable de dépenser son argent dans ces magasins.
Et alors le 24 juillet 1863, et qui est la caisse de Trouville-Deauville, dont Armand Donon est le principal actionnaire, quel est l'objectif de cette nouvelle banque, Nicolas Stoskov?
Alors cette banque a comme objectif de faire circuler l'argent, si vous voulez, et de permettre d'escompter les traites qui sont émises par les acheteurs de terrain. Donc effectivement, c'est là où on voit le rôle de ces techniciens de la finance, c'est qu'il y a une véritable entreprise qui se monte autour de Deauville pour la valorisation de Deauville et pour la vente du produit, si vous voulez. Donc il faut une banque, il faut une société immobilière.
La Société des immeubles de Deauville.
La Société des immeubles de Deauville, qui met en vente un certain nombre de lots et qui permet évidemment aux investisseurs de rentrer dans leurs frais et de gagner beaucoup d'argent, si ça avait marché, mais ça n'a pas tout à fait bien marché comme c'était prévu.
Mais la question qui se pose alors, c'est peut-être qui devrait tirer les bénéfices de l'aventure de Deauville. Est-ce que c'est celui qui a conçu la ville, le comte de Morny, ou ceux qui ont fourni les fonds, ses collaborateurs?
Ah bah, je pense qu'écoutez, ça c'est une question difficile.
En tout cas, le débat se pose à l'époque.
Oui,
la question se pose.
Non, je pense pas. Je pense pas qu'il se pose à l'époque. Le problème, c'est que Morny meurt en 1865. Donc Morny n'a vécu qu'une seule saison finalement à Deauville, hein, la saison 1864, et il meurt en mars 1865. Hein. Donc à ce moment-là, ça donne un coup d'arrêt à la vente, si vous voulez, à l'image de Deauville. Hein. Et les investisseurs, finalement, ne font pas des si bonnes affaires que ça. Alors, bien sûr, les terrains qu'ils vendent, ils les vendent 40, 50, 60 fois le prix d'achat. Hein. Mais avec, naturellement, des terrains qui sont maintenant viabilisés, il y a eu des frais, il y a eu des dépenses aussi. Mais enfin, c'est quand même, vous voyez, une belle culbute qui est réalisée. Sauf qu'il y a beaucoup de terrains qui ne vont finalement pas trouver preneur. Et donc, l'affaire n'est pas si extraordinaire que ça du point de vue financier. En revanche, la réalisation, elle est là. Et jusqu'à nos jours, Deauville a conservé cette image, finalement, de ville du cheval, d'abord, de ville qui attire une clientèle assez aisée, d'un certain prestige, d'un certain... voilà. Ça, c'est quelque chose qui est resté. Et puis, il y a eu quand même une admirable mise en valeur de ce qu'offrait l'espace, c'est-à-dire la mer d'un côté, les collines des Pays d'Auge de l'autre côté avec le cheval. Et ça, c'est tout à fait réussi.
Et vous l'avez dit, la mort du duc de Morny en mars 1865 provoque un coup d'arrêt à tel point que le dramaturge Auguste Luchet écrit alors « Un grand seigneur avait conçu ce bain des empereurs, il est mort et l'opération avec lui. » 1865, c'est déjà la fin de l'exploitation économique de Deauville ?
Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas la fin de l'exploitation, mais c'est un coup d'arrêt incontestablement. Et il y a même un journaliste parisien qui dit « il n'y a pas d'arbre ». Évidemment, il n'y a pas d'arbres. C'est une ville qui vient d'être créée, en plus en bord de mer, donc les arbres poussent difficilement. Et il dit, c'est Palmyre, mais Palmyre sans palmier. Alors, je ne sais pas si vraiment on peut comparer Deauville à Palmyre, hein, mais enfin voilà, c'est un désert. Il dit, c'est un désert. Et donc, la presse se retourne, en quelque sorte, après la mort de Morny. Parce que Morny, incontestablement, avait beaucoup de projets. Il avait des projets théâtraux, il avait des projets concernant la sociabilité, les cercles, etc. C'est lui qui, effectivement, donnait c'est lui qui était la locomotive mondaine, incontestablement. Et une fois qu'il est mort, les choses avancent beaucoup plus lentement, mais elles continuent à avancer. Sauf qu'on est en 1865, puis quelques années plus tard, c'est la guerre de 70, hein, c'est la Commune, que là aussi, ça donne un coup d'arrêt, évidemment, à toute cette fête impériale qui est dans Deauville et en quelque sorte l'incarnation, hein, sur les plages de Normandie. Et puis, phénomène se produit en 1874-75, c'est que la mer recule d'une centaine de mètres. Et donc, devant les villas, devant la terrasse, ce sont de nouveau des marécages, parce qu'il y a eu un cordon de galets qui s'est placé là, et ce sont de nouveau des marécages. Et là où c'est assez extraordinaire, c'est que, ultérieurement, ce qui était un handicap énorme, si vous voulez, dans les années 70, est devenu par la suite un atout formidable, puisque c'est là qu'ont été construits ensuite les tennis, la piscine, le centre international de Deauville et toute une série d'attractions qui font encore le bonheur de Deauville.
Mais pour l'heure, en 1870-1875, Deauville va s'endormir pour quelques décennies.
C'est ça.
Et alors on peut dire que certaines erreurs ont été commises dans ce projet économique, en tout cas la spéculation immobilière, elle, est allée bon train. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Morny et ses collaborateurs, comme vous le disiez, ont au moins réussi à créer une image de marque très forte qui va perdurer.
Absolument. Ils ont créé cette image de marque qui va perdurer, qui va leur survivre et qui est là, fondamentalement, l'œuvre de Morny, absolument.
Et alors, quelle trace de ses origines de Deauville demeure actuellement ?
Je crois qu'il y a une statue de Morny encore à Deauville, il y a une place Morny. Par contre, Donon est complètement oublié.
Et les villas. L'homme de paille a été oublié.
Oui, mais c'est pas l'homme de paille, hein. C'est plus que l'homme de paille. C'est vraiment le financier, c'est lui, c'est l'organisateur, c'est l'entrepreneur, si vous voulez, hein. Et puis, malheureusement, toutes les villas ont été détruites. Toutes ces magnifiques villas qui avaient été construites à l'époque, le casino, etc., tout cela a été détruit. Je crois qu'il reste une seule villa, celle du marquis de Salamanca, qui est un chalet qui appartient, je crois, à un émir du Golfe. Je crois que je me demande si c'est pas l'émir du Qatar ou quelque chose comme ça.
Toi tu n'as rien changé. Rouge au poing, les yeux salés, en la voyant.
Water de François and the Atlas Mountains. Nous sommes toujours avec Claude Prelorenzo et Nicolas Stoschkoff. Sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, nous retraçons l'histoire des cités balnéaires en France. Alors au 19e siècle, la cité balnéaire de Deauville avait été inventée pour accueillir la haute société. Dans les années 60, la construction de la Grande Motte répond d'abord à une volonté de développer le tourisme de masse dans le sud de la France.
Voici le site naturel de la Grande Motte à 12 km de Montpellier, avant que tout ne commence en 1964. Avec une maîtrise et une rapidité qui surprendra, les digues du port apparaissent en 1966. Puis, deux ans plus tard, les deux premières pyramides surgissent sur ce qui deviendra un port. Cela, c'était il y a 3 ans. 3 ans à peine. Aujourd'hui, en 1970, la Grande Motte a déjà une histoire. Ces pyramides ont paru dans tous les journaux du monde. Avec sa plage en pente douce qui s'étend sur 4 km, son port de plaisance d'une capacité d'accueil de 1000 bateaux, elle est une sorte d'oasis de soleil pour les passionnés de nautisme et un paradis pour les piétons. Aucune voiture ne circule en bord de mer, chacun peut ainsi se retrouver, se détendre, se promener sans contrainte.
Une oasis de soleil et un paradis pour les piétons, entend-on dans cette archive de l'INA. Alors déjà, le projet de la Grande Motte au début des années 60, il faut le dire, intervient à l'apogée du pouvoir gaullien et s'inscrit plus globalement, Claude Prelorenzo, dans une volonté de contrer la concurrence touristique de l'Espagne.
Oui, d'abord s'inscrit plus globalement dans la volonté gaullienne d'aménager le territoire. Parce qu'en 1947, le bouquin du géographe Gravier qui s'intitulait « Paris et le désert français » avait traumatisé toutes les élites de l'aménagement qui ont découvert qu'effectivement il y avait un problème. Bon, donc c'est une politique d'aménagement beaucoup plus générale. Donc en l'occurrence un aménagement touristique. Et c'est vrai que les élites gouvernementales Gaulle, enfin les personnes qui dirigent le pays autour de Gaulle, constataient que la France était un lieu de passage pour les automobiles des touristes étrangers qui venaient du nord de l'Europe en particulier, qui se dirigeaient essentiellement sur l'Espagne et un petit peu sur l'Italie. Et donc l'idée, c'est de créer une barrière d'une certaine façon pour récupérer ce flux touristique et profiter de ce qu'il apportait, quoi.
Et alors ce qu'on observe, c'est que autant la mode balnéaire au 19e siècle avait privilégié les climats du nord de l'Europe, autant désormais on recherche le soleil et les destinations les plus courues de la saison estivale deviennent les rivages méditerranéens.
Oui, ça c'est un phénomène qui est assez frappant et qui montre à quel point les modifications et les grands changements idéologiques, affectifs, sociaux, économiques peuvent intervenir de manière assez rapide. Effectivement, sur la Côte d'Azur, les grands hôtels qui accueillaient la population touristique de l'hiver, en particulier les Russes, hein, qui venaient y goûter un hiver ensoleillé avec des mandarines, des oranges, des fruits, etc., ces hôtels fermaient au mois de mars. Hein. C'était fini. On considérait que la Côte d'Azur était un endroit très dangereux, avec trop de soleil, trop de chaleur, et donc on n'y venait pas. Et c'est la grande modification de l'entre-deux-guerres qui, à partir d'une culture méditerranéenne, en fin de compte, hein, la redécouverte un petit peu de la Méditerranée, de sa clarté, de ses monuments en marbre, etc., bon, qui va faire changer les envies et les gens.
Et pourquoi cette redécouverte à ce moment précis dans l'entre-deux-guerres et comment elle s'opère concrètement cette découverte?
Ça s'opère toujours avec plusieurs facteurs, dire c'est multifactoriel un changement de ce type-là. Bon, il y a chez une partie des hygiénistes la conviction que le soleil est un bienfait pour l'homme, en particulier dans la lutte sur le rachitisme. Donc on va voir des colonies de vacances religieuses ou laïques emmener des enfants pour les fortifier. Donc le soleil est un fortifiant. Aujourd'hui, c'est devenu à nouveau un ennemi, mais dans cette période-là, pendant tout une bonne partie du 20e, le soleil est un ami. Il tue les microbes, etc. Et donc on le trouve dans l'architecture, les maisons doivent être ensoleillées, il faut que le soleil rentre, etc. Bon, donc le soleil revient à l'avant, alors que pendant le 19e siècle, c'était un ennemi. Il fallait pas bronzer, parce que si on bronzait, on ressemblait à des ouvriers. Et donc on se protégeait des ombrelles, des habits, etc. Même si on venait quand même dans des endroits qui étaient ensoleillés. C'était pas une négation totale du paysage ensoleillé, mais c'est une négation du contact avec le soleil.
Donc la raison médicale est la première de
la raison médicale est la première, mais aussi une raison qui est de l'ordre artistique, littéraire, etc. C'est la redécouverte de la Méditerranée. À partir des années 10, les grands tours que font les architectes, les urbanistes, les peintres, etc., les amènent sur les bords de la Méditerranée. Ils vont pas au nord, ils vont pas en Suède, ils vont pas en Finlande, ils vont en Grèce, ils vont en Turquie, ils vont en Sicile, ils vont en Tunisie, ils vont au Maroc. Bon, donc cette découverte de la Méditerranée a entraîné nécessairement une nouvelle manière de concevoir la mer et une nouvelle manière de concevoir le climat et l'architecture.
Alors cette redécouverte de la Méditerranée va mener à la création, à l'invention de la Grande Motte dans les années 60. Et c'est la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui va être chargée des opérations. Écoutons Olivier Guichard, délégué à l'aménagement du territoire de 1963 à 1968.
Eh bien, dans une civilisation où la part des loisirs ne cessera de croître, il est normal que l'État recherche des lieux encore vierges où puisse se développer cette civilisation. C'est ce qui nous a conduit à nous préoccuper de la côte du Languedoc-Roussillon et à envisager les infrastructures nécessaires pour que cette côte devienne un lieu de loisirs. Étant donné la taille des infrastructures en matière de communication, en matière de démoustication, en matière d'adduction d'eau, il fallait que l'État s'en préoccupe d'accord avec les collectivités locales. Ce sont les infrastructures qui seront traitées par l'État, étant bien entendu que les travaux seront ensuite repris par des syndicats d'économie mixte départementaux et qu'ensuite ce seront les initiatives privées qui auront libre cours dans le cadre tracé par la mission de M. Racine.
L'État français cherche à répondre à cette nouvelle civilisation des loisirs. Nous sommes dans les années 60, soit à peu près plus de 20 ans après la généralisation des congés payés en juin 36. Claude Prélorenzo.
Oui, bien sûr que juin 36 a été une date importante, même si une date en tant que telle, on n'a pas une signification toute seule. Hein. Il n'y a pas que la France qui a inauguré des congés payés, etc. Mais 36, effectivement, a marqué le fait qu'une partie de la population vraiment désiré accéder à cela. Mais par rapport à l'aménagement touristique, en particulier du Languedoc-Roussillon, je pense que la découverte d'une nouvelle clientèle touristique n'est pas la même que celle que 36 voulait promouvoir. Les vacances, les congés payés de 36, c'était l'émergence de la population ouvrière, donc très pauvre, avec peu de moyens. Alors que là, on est dans une logique qui va être la toute petite bourgeoisie et le monde grandissant des employés. C'est pas une action complètement populiste hein, qui préside à l'opération.
Ce n'est pas le même public, on l'entend bien. Et alors, la DATAR va alors appliquer une politique différente à l'est et à l'ouest de la façade méditerranéenne, Claude Prelorenzo.
Oui, parce que quand on s'est posé la question de conserver ce tourisme qui allait vers l'Espagne et de loger aussi la masse grandissante des Français qui voulaient passer des vacances au bord de la mer. Dans le contexte où c'est le soleil qui primait, on a cherché un petit peu l'Aquitaine, mais surtout la Méditerranée. Donc c'était les deux régions qui ont été les plus privilégiées. Et la constatation a été vite faite que du côté Côte d'Azur, il n'y avait plus de place, que le foncier était très cher, que c'était très occupé et que donc il n'était pas pensable de pouvoir organiser ce que Guichard appelle une grande opération. Voilà. Et donc, par contre, l'autre littoral était, quand il dit qu'il était vierge, il faut faire attention parce que moi, je me suis fait agresser à Montpellier en venant faire une conférence sur la Grande Motte en disant mais vous faites la publicité à une opération antinaturaliste, antinaturelle, dire parce qu'en fin de compte, on a détruit un écosystème, on a détruit des quantités d'animaux, on a détruit parce que voilà. Bon, donc c'était pas si vierge que ça, mais il n'y avait pas d'habitation puisque les villes s'étaient construites effectivement à plus de 15 km du bord de la mer, qui était une mer qui n'était pas portuaire, on peut pas accéder, c'est une mer de sable avec des fonds bas, etc. Bon, donc les villes s'étaient constituées très très loin, donc Montpellier 12 km, Nîmes peut-être 20, enfin bon, il y avait un chapelet de villes importantes derrière.
Et sur cette côte du Languedoc-Roussillon, l'objectif ça va être notamment de lutter contre le camping sauvage, et donc la DATAR va appliquer une politique de ville nouvelle balnéaire directement pilotée par l'État. Et il y en aura 7 en tout, dont la Grande Motte.
Oui, c'est une politique qui est entièrement dirigée par l'État. Lorsque Guichard parle du relais pris par les départements, c'est un peu, disons, c'est pas tout à fait exact. Hein. L'État va maîtriser la situation jusque pratiquement au bout. Et la nouveauté qui va présider à ce choix, en particulier par opposition à ce qui se passait au XIXe siècle, c'est que c'est pas le chemin de fer qui génère la balnéarité sur la côte du Languedoc-Roussillon, c'est la route. Bon, donc on va créer une armature routière très puissante, c'est l'automobile qui compte, hein. Les photos de Douaneau le montrent, hein. Les gens avec la 4 chevaux qui descendaient jusque sur la Méditerranée, etc.
Donc, et la France est alors assez en retard dans la construction de ces autoroutes.
Le Languedoc... Pardon ?
Plus largement, la France est en retard par rapport à d'autres pays.
Bien sûr, la France est en retard. Dire l'Allemagne et l'Italie avaient des autoroutes depuis déjà plusieurs décennies et la France n'en avait pratiquement pas. Bon, donc on crée pas une autoroute, hein, on crée une voie rapide. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais surtout, pour rendre la région habitable, il faut la dénaturer. C'est-à-dire, il faut passer de marécages, parce que là aussi, on a affaire à des zones qui sont des zones marécageuses, qui mélangent
moustiques.
Des salins, des choses comme ça, des moustiquets, puisque ce contexte donnait lieu à, etc. Et, d'une certaine façon, déruraliser. C'est-à-dire que les quelques cultures qui continuent à exister ont été supprimées.
Elles ont permis
de faire des acquisitions de terrain à très bon marché, puisque en fin de compte l'opération a été présentée comme une opération de liée au canal du Midi, à l'adduction d'eau, etc. On n'a pas dit qu'on allait construire dessus et que donc on achetait aux paysans les terrains à leur valeur, qui était une valeur nulle, c'est-à-dire qui était vraiment très très basse, quoi.
Et en 1965, les premières machines de dragage apparaissent. Et là, c'est le début des travaux de la Grande Motte. Comment ça se passe, ce chantier, Claude Prelorenzo?
Il y a plusieurs niveaux, hein, qui sont pas tous les mêmes dans toutes les stations. En ce qui concerne la Grande Motte, il a fallu d'abord drainer, c'est-à-dire transformer le marécage en terre sèche, d'une certaine façon, affronter le fait qu'on était à très peu de mètres de désinfiltration de la mer. Hein. On n'était pas du tout, c'est pas une terre sèche profondément, hein, donc elle était en surface. Donc il y a eu beaucoup de travaux avec l'ONF et les paysagistes pour arriver au résultat qu'aujourd'hui la Grande Motte est une des stations les plus vertes de France. Il y a, le taux de d'arbres et de végétation est très important. On a surélevé le sol parce qu'il fallait empêcher l'eau de continuer à franchir le maigre cordon dunaire parce qu'il n'était pas très haut. Hein. C'est pas le Pilat, hein, c'était des petites dunes très petites. Et donc on a rajouté, je crois, plusieurs mètres de terre arable, enfin de terre normale, quoi.
Et le port de la Grande Motte est inauguré en 1967 et le général de Gaulle lui-même va venir visiter le chantier la même année.
Oui, tout à fait. Alors le port, c'est une des grandes nouveautés des stations balnéaires de la deuxième moitié du XXe siècle. Et les ports nautiques, j'entends, hein, puisque c'était pas ce qui existait dans le cadre des stations balnéaires des périodes précédentes. Donc tous les équipements balnéaires qui vont se réaliser, moi j'ai travaillé aussi sur Marina Baie des Anges, sur Port Grimaud, etc., sont liés aux bateaux. Bon, donc il faut qu'il y ait, c'est impensable de créer une station balnéaire sans que les gens puissent avoir un anneau pour accrocher les bateaux. La deuxième moitié du XXe siècle, c'est l'explosion en France des bateaux de plaisance. On est numéro un mondial, hein. Bon, donc c'est pas d'anneaux, hein, de nombre de bateaux qui stationnent. Donc effectivement, la Grande Motte prévoit d'emblée un grand port qui, très vite, comme tous les ports, ne suffira pas. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des projets d'extension.
Des travaux d'agrandissement qui sont prévus, qui ont été annoncés en juin dernier. Alors, comment construire une ville ex nihilo, Claude Prelorenzo? Les concepteurs de la Grande Motte réfutent d'emblée à la fois le modèle de la Côte d'Azur et celui de la Costa del Sol et de la Costa Brava en Espagne. On veut construire autrement.
Oui. C'est pas ce modèle qui prévoit. Effectivement, il y a déjà l'expérience quand même des villes satellites, donc des villes nouvelles autour de Paris. Donc la pensée de créer des discontinuités dans l'urbanisation et de focaliser sur des points de densité est une idée qui est bien répandue. Et les modèles qui vont inspirer les stations de la du Languedoc-Roussillon sont les stations de la mer Noire. C'est-à-dire que la mer Noire avait pris beaucoup d'avance sur la France de ce point de vue-là, la Roumanie et la Bulgarie, et avait réalisé des stations balnéaires qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire discontinu, c'est-à-dire l'espace n'est pas continu, il y a une coupure avec des espaces verts non constructibles en France, mais aussi dans ces pays-là, et c'est de l'habitation en immeuble. Donc c'était déjà un modèle, et le modèle, il est là. Il est là, et il est mené aussi concurremment avec l'invention, d'une certaine façon, des nouvelles stations de ski. Parce qu'on pourrait faire le même parallèle. Les stations de sport d'hiver, les stations d'hiver, ont existé au 19e siècle. Elles faisaient partie, Chamonix, etc., d'endroits dans lesquels on allait passer un certain temps. Mais là, ça va devenir une autre façon de procéder. Et ça va procéder pas par maison, très peu de maisons individuelles, mais beaucoup d'immeubles.
Et de la même façon que là où à Deauville on allait construire un grand hôtel, un casino, un hippodrome, à la Grande Motte on va construire des centres comme un centre de congrès, des terrains de sport et même des établissements scolaires, parce qu'il y a aussi des Français qui s'installent définitivement.
Oui. Ça tient à l'évolution effectivement de la Grande Motte, qui est une station balnéaire qui est devenue une véritable ville. C'est pas le cas de toutes les autres stations, hein, qui restent des stations beaucoup plus estivales et beaucoup plus momentanées. Et ça tient aussi à une attitude morale de Jean Balladur, parce qu'on en a parlé lorsque j'ai interviewé pour faire ce livre.
L'architecte,
il a dit,
de
moi,
la Grande
je
Motte.
Refusais de mettre le casino en position de majesté sur le devant de la ville. Donc le casino a été très longtemps un bâtiment sans grand intérêt. Par contre, il a créé une maison de la culture, un centre culturel, qui lui est au centre de la ville, pas au bord de la mer, mais au centre de la ville, et qui est le grand équipement.
Et alors, à Deauville, on parlait de l'élite des métropoles européennes qui venait pour ces bains de mer. Mais alors, dans ces nouvelles cités balnéaires, on l'a dit, ce sont plutôt les classes moyennes. Et est-ce qu'il y a cette idée que la côte languedocienne veut attirer un autre public que la Côte d'Azur?
Ben, il y a l'idée qu'il y a un autre public qui a besoin de venir au bord de la mer. qui exprime des besoins et que c'est pas un public qui a les ressources qui leur permettraient d'acheter un morceau de terrain sur la Côte d'Azur. Donc c'est des salariés, c'est de la petite bourgeoisie, c'est des employés, c'est plutôt ce genre de clientèle. Donc là, il faut leur donner des appartements petits, sur le modèle du ski. Balladur le dit, en fin de compte, quand on vient en vacances, on reste pas très longtemps chez soi, on est tout le temps à l'extérieur, on va à la plage, etc. Donc c'est pas la peine de donner beaucoup d'espace. Donc le logement minimum que les modernes avaient défendu, comme au ski, donc un peu plus grand quand même, mais enfin c'est un peu le modèle de la petite studette du ski, quoi.
Et alors la conduite de l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon est emblématique des objectifs et des méthodes de la DATAR qui cherche d'abord à maîtriser le foncier afin d'éviter tout phénomène de spéculation. Comment est-ce qu'elle s'y prend, Claude Pellerenzo?
C'est une démarche qui est très forte, très puissante et très volontaire, parce que c'est effectivement un aménagement volontaire. Hein. On n'est plus dans le fait qu'il y a des acteurs qui sont privés, qui vont prendre des initiatives, c'est très volontaire. Donc le premier élément, c'est d'acquérir, que l'État acquiert la totalité du terrain. Donc la totalité du foncier, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été un petit peu escroquée aux paysans, puisqu'en fin de compte, on leur a acheté de la terre à une valeur agricole nulle pour en faire une terre d'habitation à une valeur beaucoup plus élevée.
Et aussi parce que ça se fait de façon secrète, sans dire ce à quoi cela va servir.
Tout à fait, secrète. Hein. Secrète. Et ensuite, il va y avoir une façon de gérer l'évolution de la Grande Motte qui va être très très particulière à Jean Balladur. C'est-à-dire que Jean Balladur est l'urbaniste et en même temps l'architecte. Hein. C'est une situation qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas retrouver. Parce que si vous êtes urbaniste, vous ne pouvez pas construire dans l'endroit où vous avez fait le plan, parce que c'est un conflit d'intérêts. Bon, donc Jean Balladur va lotir, bien entendu, les terres constructibles de la Grande Motte, une fois qu'elles sont aménagées. Mais il ne va accepter de les offrir à des promoteurs que dans la mesure où ils acceptent de prendre les lots les plus proches de l'endroit où c'est déjà bâti. Parce que ce qu'ils voulaient pas, c'est avoir la totalité de la surface avec des points divers comme ça qui donnaient une impression de chantier permanent. Mmh. Donc la Grande Motte se construit de manière dense et s'étend progressivement de manière dense aussi. C'est une des raisons de son succès.
Et alors, à l'époque, on refuse de créer un boulevard de front de mer au profit d'une desserte en peigne. C'est l'une des grandes différences avec la ville balnéaire du 19e siècle. C'est un choix de l'architecte et urbaniste de la Grande Motte, Jean Balladur.
Je ne dirais pas que la visite que j'avais faite peu de temps auparavant du grand ensemble de Teotihuacan près de Mexico est totalement étrangère à la vision que j'ai eue de l'aménagement architectural possible sur la Grande Motte. Parce que les deux sites se ressemblent, en ce sens qu'il s'agit également d'une grande plaine marécageuse enveloppée de montagnes et que j'avais été frappé par l'accord qui existait entre les pyramides aztèques et l'environnement montagneux. Et une des raisons pour lesquelles j'ai adopté cette silhouette de ville, c'est aussi parce qu'en fond de décor, nous avons les Cévennes et que je pense que des silhouettes pyramidales s'incorporent mieux à l'environnement que des tours verticales. Mais j'ai adopté également cette forme parce que pratiquement et fonctionnellement, elle permet de dégager des terrasses ensoleillées à chaque niveau d'habitation et par conséquent, même en habitation collective, de donner aux futurs occupants une terrasse où ils puissent, puisqu'aujourd'hui c'est non seulement la vogue, mais c'est une nécessité, se dorer au soleil et profiter au maximum du beau temps qui règne dans ce pays.
Jean Balladur s'est donc inspiré du Mexique, mais ses choix architecturaux ont été particulièrement décriés à l'époque.
C'est ce qu'il dit, hein. C'est ce qu'il dit, que son influence est venue depuis le Mexique et des pyramides mexicaines. Lorsque je lui faisais remarquer que la Grande Motte, ce sont pas des pyramides, hein, ce sont des immeubles à gradins, parce qu'une pyramide, ça a quatre côtés. Et là, il y a que deux côtés et deux côtés plats. Bon, donc, étymologiquement, ce sont pas, il refuse, hein. Il dit non, moi j'ai fait des pyramides pour les raisons qu'il a évoquées là. Bon, donc, mais c'est vrai que le côté que les gradins permettent d'aménager des grandes terrasses, c'est évident. On va le retrouver aussi à Marina Bay des Anges, on va le retrouver dans des tas d'autres endroits, quoi.
Et alors, pour quelles raisons Jean Balladur ne crée-t-il pas un boulevard de front de mer? Il y a vraiment une politique pour éviter de privilégier une partie du programme résidentiel?
Il a créé une trame vière. Une trame de voies dans la conception moderne de la circulation dans les villes, hein, donc des villes nouvelles qui hiérarchisent les voies de manière très forte, qui crée toute une série d'impasses, c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est un système de peigne. Vous prenez une voie si vous avez à y aller, mais sinon vous prenez l'autre voie qui dessert, etc. Et donc il a créé une trame piétonne. Et donc cette rame piétonne, il n'a pas voulu la priver du bord de mer en contact avec la voiture. Et c'est pour ça que donc, mais c'est une des plus grandes, un des plus grands pourcentages de voies piétonnes à l'époque déjà de France. Il y a, je sais plus combien, 10 kilomètres de voies piétonnes arborées avec des arbres, de l'ombre, etc. Quoi.
Et les proportions des boulevards sont calquées sur les avenues haussmanniennes. Les gabarits des traversées piétonnes ressemblent vraiment au passage du 2e arrondissement de Paris, aux arcades de la rue de Rivoli.
Oui, j'ai repris ça dans le livre parce que il l'a dit. Bon, c'est ce qu'il disait. Ceci dit, la manière dont les architectes pratiquent la référence est une manière un petit peu particulière parce que c'est toujours une interprétation. Donc, c'est vrai que la dimension d'une des artères principales, c'est le boulevard Saint-Germain de Paris. C'est vrai, c'est la même. Sauf que ce qui borde le boulevard Saint-Germain, c'est des murs extrêmement homogènes de construction, en particulier haussmanniennes et d'hôtels particuliers. Alors que là, ce sont des immeubles, entre autres à gradins, qui ouvrent la perspective, etc. Mmh. Donc on ne peut pas dire qu'on a l'impression d'être au boulevard Saint-Germain.
C'est difficilement comparable.
Ça ne donne pas cette impression-là.
Et alors, le succès de la Grande Motte, Claude Prélorenzo, ne va pas se démentir dans les décennies qui suivent, et son architecture va être copiée par la suite.
Oui, de toute façon, son architecture va être copiée et très visitée, donc ça fait un petit peu modèle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. La Grande Motte est devenue une commune à part entière, donc elle gère elle-même son avenir. Et actuellement, un des problèmes principaux qui est rencontré, c'est le fait que les unités d'habitation, les appartements, sont trop petits. Donc comment agrandir pour une population qui viendrait volontiers y habiter à titre permanent, puisque Montpellier est à 12 kilomètres, donc on peut très bien habiter la Grande Motte, ce qui est le cas. C'est pour ça qu'il y a il y a des écoles, des collèges, des équipements de résidence qui est au-delà du tourisme. Bon, donc, mais actuellement, il y a quand même une difficulté à dépasser ce problème du morcellement résidentiel, quoi.
Et il y a des projets de restructuration qui sont en cours.
Oui. Le maire de la Grande Motte est quelqu'un qui est très attaché et qui a un contact très étroit avec la population, qui est très attentif à ce qu'on peut lui dire, et donc il compte bien progressivement, petit à petit, arriver à réouvrir le marché immobilier de la Grande Motte.
Alors on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être, Claude Prélorenzo, Nicolas Stoschkoff, sur l'histoire de ces cités balnéaires qu'on a retracées depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours, en passant évidemment par la révolution estivale des années 50. Qu'est-ce que ce récit de la Grande Motte peut-être vous évoque par rapport à l'histoire de Deauville qu'on a retracée ensemble?
Moi je trouve qu'il y a des points communs. Un terrain vierge, des marécages, ouais. et un plan d'ensemble, un projet, un véritable projet. Et dans un cas, c'est une initiative privée. Dans l'autre, c'est une initiative publique. Mais je trouve qu'il y a quand même des points de comparaison assez forts.
Claude Prélorenzo.
Oui, c'est clair. La principale différence pour moi, ces comparaisons, j'avais aussi noté, donc elles sont tout à fait réelles. La mer aussi, la découverte le 19e siècle accoutume la population européenne à un contact avec la mer. La différence, c'est que Deauville est desservie par le train et qu'il attire la population parisienne de manière directe, alors que la Grande Motte est desservie par la route et que les populations ne sont pas les mêmes. On a affaire à une nouvelle couche de population.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous rappelez qu'en dépit des avancées réalisées pour la conquête du temps libre, des familles très nombreuses sont aujourd'hui encore privées de vacances.
Mais oui, c'est même une constante. Et si depuis une trentaine d'années, le taux de départ en vacances des familles françaises varie en réalité assez peu, autour de 60%, les inégalités sociales, elles aussi, se perpétuent. Les riches sont toujours deux fois plus nombreux à partir en vacances que les pauvres. Et bien sûr, ces inégalités sont encore plus criante lorsque l'on observe de plus près ces pratiques du temps libre. Au-delà de savoir si les personnes partent ou non en vacances, il faut également regarder où ils partent et s'ils partent plus d'une fois dans l'année. Partir au sport d'hiver ne concerne ainsi qu'une toute petite partie de la population, en dépit de l'omniprésence médiatique qu'occupent ces pratiques. Ainsi, aux premières heures de l'hiver, les pubs pour les stations de ski colonisent arrêts de métro et encarts de magazines, alors que cette pratique ne concerne que 7% de la population. Inutile de préciser que partir plus d'une fois par an ne concerne concerne aussi qu'une part très faible de la population.
Pourtant, une enquête sortie il y a quelques semaines nous rappelle que partir en vacances constitue un besoin vital pour 55% des Français.
Absolument. L'étude précise d'ailleurs qu'il ne s'agit ni de séjours de santé, ni professionnels, ni linguistiques, ni les fêtes de famille, ni même les pèlerinages. Il s'agit vraiment de séjours de détente et de loisirs. Selon une autre enquête de l'Observatoire national de la pauvreté, les dépenses liées aux vacances sont jugées comme essentielles pour se sentir intégré à la société. Ces dépenses n'auraient donc rien de superflu, mais constitueraient une source d'intégration et de bien-être, au même titre que l'achat de produits d'hygiène, de beauté ou même de numérique. Comme l'explique Sandra Wabian, directrice du Crédoc, dans une société où ces pratiques sont majoritaires, ne pas avoir de téléphone mobile ou le budget nécessaire pour partir en vacances nuit à l'intégration.
Malgré ce caractère essentiel, les budgets liés aux vacances sont souvent les premiers à être sacrifiés en cas de difficultés financières.
Oui, bien sûr, en dépit de leur importance sociale, les dépenses de temps libre restent toujours plus faciles à rogner que celles en matière de santé ou d'alimentation. Quand on parle de se serrer la ceinture, on commence par supprimer les vacances à la plage avant de restreindre les courses du quotidien, même si les deux ne sont pas nécessairement incompatibles.
Mais ces inégalités ne se limitent pas à des questions financières, Arjuna.
Non, bien sûr, si la question économique est centrale et permet très largement d'expliquer les inégalités de pratique, elles se cumulent en réalité à des inégalités sociales. Car bien sûr, il est plus facile de partir 2-3 jours de chez soi lorsque l'on a la maison d'amis ou de famille qui nous attend. Or, ces hébergements gratuits concernent avant tout les plus privilégiés, dont la famille et les amis ont plus de chances de disposer de maisons secondaires à leur prêter. Et puis partir sur un coup de tête, quelques jours ou quelques semaines, c'est non seulement une question financière, mais c'est aussi une question d'éducation. Ainsi, les personnes ayant pris l'habitude dans leur jeunesse, notamment de partir en vacances, ont moins l'appréhension à quitter leur maison, à prévoir une vie hors de chez soi, sans leur repère, parfois dans une langue étrangère. Pour réduire ces inégalités, il faut donc non seulement mobiliser des aides financières en ciblant particulièrement les classes populaires, les classes moyennes souvent salariées bénéficiant aujourd'hui de chèques vacances ou d'aides de leurs employeurs, mais il est également nécessaire de favoriser l'éducation aux vacances sur le modèle des colonies de vacances d'autrefois, lieu de découverte et d'éducation populaire pour tous.
Je suis enfouie dans le sable, les marées me couvrent et me découvrent. Je jette un coup d'œil au grand jour, c'est le temps des mortes eaux, de la dépression tout court. Je vois les grandes algues sèches affaissées, d'épaisses langues de feutre recroquevillées, sur le sable plat, entre les rochers, comme il fait chaud, c'est à crever. Vivement la fraîcheur des hautes eaux, que les algues se remettent à danser. Et moi je veux bien nager dans ces constructions enthousiastes et complexes. Dentelles molles et caoutchouc tesses. Si les lourds savaient, comme ici tout est léger. Vive la pesanteur, l'ardeur au ralenti. Les corps pâles s'étirent et s'enroulent sur des sofas translucides. Les perspectives se perdent dans des spirales de nacre. Les pinces découpent des formes imaginaires. Tout est calme et l'on marche sur les ondes. Là où la cacophonie s'estompe, où tout nous parvient de loin, de derrière le grand filtre du monde. Là-bas les gens, les objets se cognent, oui de loin nous entendons cela. Les cris, les bruits sont secs, car ici rien ne résonne. Sont-ils tristes ou gais, nous ne le savons pas, car la volonté n'arrive pas jusque-là. «
derrière le grand filtre de Françoise Breut. Merci beaucoup Claude Prelorenzo et Nicolas Stoskoff de nous avoir emmenés à Deauville et à la Grande Motte au moment de l'invention de ces villes de bord de mer. Claude Prelorenzo, je rappelle l'ouvrage que vous avez écrit avec Antoine Picon, L'aventure du balnéaire, la Grande Motte de Jean Balladur, publié aux éditions Parenthèse. Je rappelle également le livre auquel vous avez participé, Nicolas Stoskoff, Morny et l'invention de Deauville, publié chez Armand Collin. On se retrouve demain pour une émission consacrée à la fabrique des préférences culturelles. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
Derrière le grand filtre du monde.